Dylan Baron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant action chez Quilvest Gestion. On va parler avec vous de ces marchés et d'un certain nombre de secteurs. C'est vrai qu'on avait eu un peu deux périodes, hein, une période pas forcément euphorique, mais en tout cas agréable pour les investisseurs en action, puis une période un peu plus de doute. Si on tire un bilan rapide de ce premier semestre, comment vous le voyez-vous? Encore favorable aux actions ou on a un peu perdu justement sur les actions?
On s'inscrit toujours dans une dynamique plutôt haussière pour les marchés. La question principale qui est sous-jacente à cela, c'est de savoir si on est au sorti ou non de la crise. La réponse, au premier abord, ce serait non. Mais par contre, on est en bonne voie pour en sortir. Il y a énormément d'avancées qui ont été faites sur le plan politique, que ce soit sur le plan de la politique budgétaire, que ce soit également sur le plan de la politique monétaire. Et donc, l'ensemble de ces mesures qui ont été prises depuis ces 5 dernières années nous laisse penser qu'aujourd'hui, on est en bonne voie pour sortir de cette crise. Voilà le premier ressenti qu'on a aujourd'hui, et donc plutôt un intérêt à aller sur les actions, et notamment sur les actions européennes, qui est notre expertise principale sur les actions, en tout cas chez Quilvest. Et pour revenir donc sur ces actions, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que sur les 5 dernières années, donc par rapport au plus haut de 2007, sur les années donc au mois de juillet 2007, jusqu'au plus bas qu'on a connu en mars 2009, dans cette période baissière, si on regarde le secteur des cycliques, donc ce sont les valeurs qui sont les plus sensibles aux variations du cycle économique et qui baissent davantage dans un cycle baissier, ces valeurs-là ont toutes baissé de manière relativement homogène. On est allé sur une baisse jusqu'à 70% depuis donc de juillet 2007 jusqu'à mars 2009. Et cette baisse a été homogène. Par contre, la reprise depuis mars 2009, elle s'est faite de manière beaucoup plus disparate. Et donc, on constate une chose, c'est qu'il y a certaines valeurs cycliques, certains secteurs cycliques, comme les valeurs industrielles, comme également les valeurs automobiles, qui sont revenus au-dessus de leur niveau de 2007. En revanche, ce n'est pas absolu, ce n'est pas du tout le cas des valeurs bancaires et également des matières premières.
Donc on peut dire que les gérants ou les investisseurs en tout cas n'ont pas fait la même chose ou le même type d'investissement dans la hausse que durant cette
Voilà.
période de longue période de baisse.
Sur la reprise, il y a une véritable différenciation et les valeurs bancaires comme les matières premières ont été lourdement affectées. On est encore 50 à 60% en dessous des niveaux de 2007.
Est-ce que c'est pas lié au fait par exemple sur les matières premières que alors il y a eu bien sûr aux États-Unis un certain nombre d'éléments, notamment l'exploitation du gaz de schiste, hein, qui est avancé par certains investisseurs. Et puis on a vu que sur les pays émergents, quand même, la croissance était ralentie. C'est-à-dire que finalement, ce qui se passait en Europe, cette décroissance en Europe et puis cette plus faible croissance aux États-Unis avait un impact au niveau économie mondiale.
Alors, l'impact du ralentissement des marchés émergents est très fort, effectivement, surtout le ralentissement chinois. Ce qui est à noter, c'est que les valeurs de matières premières qui sont cotées en Europe, ce sont essentiellement des valeurs minières. Donc, finalement, la partie énergie, on peut en faire un petit peu abstraction pour voir l'évolution du prix des valeurs qui sont cotées en bourse en Europe sur les matières premières. Ce sont essentiellement les sociétés donc minières qui font de l'extraction de métaux industriels. Et ces métaux industriels, le principal demandeur finalement de ces métaux est chinois. La Chine représente 25% des profits des majors européens de matières premières. Et donc, forcément, si vous avez un ralentissement de la demande chinoise, ce qu'on a pu constater sur les 10 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on est au plus haut sur les stocks de matières premières, pour que ce soit du zinc, le minerai de fer, l'aluminium, le nickel. Toutes ces matières premières sont sur des niveaux de stock qui sont au plus haut depuis 2 ans, et le prix de ces matières premières sont au plus bas pratiquement depuis 10 ans. Donc, c'est assez notable comme variation. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on pense, c'est que tant que les stocks, il n'y a pas d'inversion de tendance dans les stocks, ces stocks qui sont au plus haut, on ne pourra pas reconnaître de recovery sur ce secteur. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui nous est clairement défavorable et on n'a pas envie d'investir dessus.
Vous parliez d'autres secteurs, hein, comme l'automobile. On pourrait dire qu'en Europe, sauf Carrare, et même les grands constructeurs allemands ont aussi été affectés, c'est-à-dire que l'Europe, l'automobile est sinistrée en termes de vente. En tout cas, on le voit tous les mois.
L'automobile est sinistrée en termes de vente. On est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles. En revanche, on est sur des niveaux boursiers qui sont revenus sur les niveaux de 2007. Effectivement, les ventes automobiles sont au plus bas en Europe depuis 20 ans, mais il va arriver à un moment où on est sur, par exemple, en Allemagne, on est sur un âge moyen des véhicules en circulation qui est de l'ordre de 9 ans. par le passé, on était plutôt aux alentours de 8 ans, il y a encore 4 ans. Aujourd'hui, on a ce vieillissement du parc automobile. Un jour ou l'autre, les consommateurs européens vont bien finir par racheter des véhicules, ou alors ils vont tous finir par marcher à pied. Je pense que la probabilité pour qu'ils rachètent des véhicules est quand même plus élevée. Et donc, nécessairement, on va s'orienter progressivement vers une reprise du marché automobile en Europe. Ça ne va pas se faire en un jour, mais on est vraiment sur des niveaux de bas de cycle. Ça, c'est
il y a d'autres marchés qui, eux, notamment le marché chinois, qui restent encore porteurs.
Absolument. Absolument.
Alors, du côté des valeurs, justement, ces grandes valeurs, vous parliez des valeurs industrielles aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné, du côté des investisseurs, finalement, un pari sur ces valeurs un peu trop important? On voit des fois certains cours de société, on se dit, ils sont quand même très très hauts, alors que, on va dire, même historiquement, est-ce que les investisseurs ne sont pas allés trop, se sont pas trop concentrés sur un certain nombre de valeurs, justement?
Sur les valeurs industrielles, finalement, il y a une véritable, si on regarde la répartition géographique de l'activité des valeurs industrielles européennes, ce sont des sociétés qui sont très mondialisées. Donc finalement, le ralentissement de croissance en Europe, oui, a un petit peu affecté ces valeurs-là, mais il y a toujours de la croissance dans le monde. On est sur des niveaux de 3% de croissance à peu près attendu pour 2013, ce qui est tout de même pas négligeable, bien que c'est un petit peu mince par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Mais donc, il y a toujours cette progression qui existe et on n'est pas véritablement inquiet sur les valeurs industrielles. Là où on peut constater vraiment une véritable sous-performance depuis 2007, ce sont les bancaires. Les bancaires, elles, ont extrêmement souffert depuis la crise des subprimes, ce qui est en partie justifié, évidemment. Il y a deux éléments, finalement, qui justifient la sous-performance des bancaires depuis 2007. C'est, premièrement, du fait de la crise des subprimes, on a eu une réglementation qui est devenue de plus en plus contraignante pour ces sociétés bancaires, notamment Bâle 3. On est obligé d'avoir davantage de fonds propres pour générer exactement la même activité et à peu près un même niveau de rentabilité, sauf que la rentabilité sur les actifs investis, elle diminue derrière, et ça c'est quelque chose qui va être structurel puisque ces règles ont été mises en place. Donc le premier élément, effectivement, c'est Bâle 3, mais ce n'est pas le seul élément qui justifie aujourd'hui la sous-performance des bancaires sur les 5 dernières années. On a constaté une chose, c'est que les bancaires, depuis la crise de 2007, enfin plutôt depuis la crise qui a démarré aux alentours de 2009 sur la dette souveraine européenne, depuis le début de cette crise, on constate que les bancaires jouent le rôle de thermomètre ou de baromètre de la crise de la dette souveraine. C'est-à-dire que lorsque vous avez un stress accru sur la dette souveraine en Europe,
les bancaires sont affectés.
Les bancaires sont immédiatement affectés.
Donc là, on le voit avec le Portugal qui est revenu dans
l'actualité. Exactement, c'est ce qui se passe à nouveau aujourd'hui. Le taux des obligations souveraines portugaises repasse au-dessus de 8%. Vous avez le secteur bancaire qui est fortement affecté. Et finalement, cette corrélation, elle est persistante depuis 2009. Et pour nous, finalement, on se dit que est-ce qu'il est intéressant de jouer les bancaires d'un point de vue fondamental ? Pas tout à fait, puisqu'on vient de voir que structurellement, la rentabilité est affectée. En revanche, d'un point de vue tactique, c'est toujours intéressant d'aller sur ce secteur-là lorsqu'il y a un stress accru sur le secteur bancaire, puisque c'est le secteur qui est fortement affecté et qui peut entamer avec une accalmie, du stress, une reprise marquée.
Voilà. Donc, en conclusion, peut-être sur, justement, on a parlé de ces différents secteurs. On sait que l'été n'est pas toujours facile pour le gérant action. Il se passe souvent beaucoup de choses. On a déjà parlé du Portugal. Il y aura peut-être d'autres événements à venir. Quel type de positionnement on doit avoir dans des périodes comme ça qui redeviennent, on va dire, avec un peu plus de volatilité?
Avec un peu plus de volatilité, effectivement, je pense qu'il y a une reprise qui est latente et qui est là depuis 2009, qui est progressive. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, rester sur des valeurs industrielles, c'est un secteur qui, en tout cas, le secteur industriel est un secteur sur lequel nous restons. En revanche, effectivement, il y a un équilibre à trouver avec un certain nombre de valeurs défensives, notamment toujours la santé qui continue de performer relativement bien, et éventuellement peut-être revenir sur d'autres secteurs qui ont été lourdement affectés. À l'image des télécoms, par exemple, il y a un tri à faire sur ces valeurs-là. Et aujourd'hui, il reste des valeurs qui distribuent des dividendes intéressants et qui assurent une certaine pérennité des cash flows.
Merci d'avoir fait le point avec
Merci
nous,
à vous.
Dylan Baron. On rappelle que vous êtes donc gérant action chez Kilvest Gestion.
Merci.